Histoire d'archives sur Fréquence Mistral, Digne-les-Bains. Bonjour Laure.
Bonjour Jean-Marc.
Alors vous êtes aujourd'hui dans nos studios de Fréquence Mistral à Digne. De quoi allez-vous parler aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler de Ghana Gobi, puisque c'est vraiment notre sujet principal de préoccupation en ce moment pour l'exposition estivale. Et puis de notre actualité, puisque nous avons procédé à quelques mises en ligne et nous préparons aussi la Journée internationale des archives qui a lieu le 9 juin.
Alors, dans un premier temps, vous avez mené beaucoup de documents que vous avez sous les yeux.
Oui.
Vers quelle orientation allez-vous aller ?
Alors, chaque année, quand nous préparons l'exposition de l'été, nous écrivons une partie des textes, mais nous faisons aussi appel à d'autres contributeurs. Et là, en l'occurrence, comme nous travaillons sur le monastère de Ghana Gobi et essentiellement sur les mosaïques, nous avons demandé un texte sur la symbolique de la mosaïque à Frère Régis, qui est moine dans le monastère. Et il nous a livré son texte, qui est fort intéressant. Et nous avons aussi les contributions de Marie-Christine Braillard et Nicole Danoville. Donc la première est l'ancien conservateur départemental. Nicole Danoville est archéologue. Voilà. Et donc non, revenir peut-être sur la symbolique de la mosaïque, parce que vraiment ce qu'a écrit Frère Régis est vraiment passionnant, puisqu'il a à la fois le regard du moine, mais aussi le regard de l'historien d'art. Et il a beaucoup travaillé sur la symbolique de la mosaïque, mais aussi des sculptures du tympan de l'église. Et puis il connaît fort bien cette période. Donc il nous a livré un très beau texte où il présente vraiment cette mosaïque qui est en gros l'affrontement entre les forces du bien et les forces du mal, avec à gauche tout ce qui est vers la gauche et le mal, représente le mal. Vous savez que les gauchers, c'est pas pour rien que très longtemps on les a malmenés, c'est qu'il y avait aussi l'idée que le...
Ça vient de là ?
Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Enfin, il y a d'autres hypothèses, hein, mais en l'occurrence... Et puis la gauche, le côté gauche, est dans beaucoup de civilisations attribué à la lune, au froid, donc, et puis par extension, le mal. Et du côté droit, les forces du bien qui évidemment triomphent du mal. Voilà. Donc Frère Régis a vraiment explicité ce discours, ce langage iconographique. En plus, on est dans la période romane, hein, ces mosaïques ont été réalisées au XIIe siècle. On a tout un bestiaire fantastique qui se mêle à un bestiaire plus réaliste. Donc on a des chimères, on a des animaux dont on a un peu de mal d'ailleurs à savoir exactement ce que c'est, des aigles à deux têtes, voilà. Et en même temps des animaux parfaitement réels, plus ou moins bien représentés, comme un éléphant, un cheval, etc. Oui.
Et l'aigle à deux têtes, côté droit, côté gauche, c'est une symbolique aussi ?
En fait, il est au milieu, l'aigle. Donc, il regarde des deux côtés. Voilà, il fait partie du centre d'un panneau décoratif. Voilà. Il est un peu comme un blason, en fait. Hein. Il ressemble un peu à l'art héraldique, avec ce côté vraiment central. Voilà, et c'est vraiment un très bel ensemble ces mosaïques, je vais y arriver. Et c'est vraiment bien qu'on puisse en parler plus longuement, d'autant que là, non seulement on va parler de la symbolique, mais on va pouvoir présenter des relevés qui ont été faits à la fin du 19e siècle. J'en ai parlé la dernière fois. On va pouvoir montrer des photographies qui ont été faites au moment de la mise au jour de ces mosaïques. En fait, vous savez qu'on a oublié un peu à un moment donné qu'il y avait des mosaïques à Ghana Gobi. Elles ont été redécouvertes à la fin du 19e. Et puis, on a ramené, en fait, de la société qui a restauré les mosaïques dans les années 80, avait procédé à une prise d'empreinte de l'état original de la mosaïque. Donc, une prise d'empreinte avec une espèce de mousse. Hein, et elle n'a pas fait tirer, malheureusement, j'allais dire, parce que ça coûtait très cher, des moulages de l'ensemble, mais elle a fait un tirage au moins d'un panneau, qui est celui qui est le motif qu'on utilise dans la couverture de notre ouvrage, le motif du cavalier qui est en train de percer une chimère. Et on a pu ramener donc ce moulage de la société qui est basée à Périgueux. On l'a ramené il y a 3 semaines et on va pouvoir le présenter au public. Évidemment, on ne va pas décoller un morceau de la mosaïque de Ganagobie, mais j'espère que ça donnera envie aux gens de revenir ou de venir tout court à Ganagobie découvrir cet ensemble.
Oui, il faut 20 minutes pour aller là-bas, c'est pas si loin que ça.
C'est pas si loin que ça, et c'est vraiment un endroit qui conserve, au-delà des âges, tout son charme et son attrait. Ouais.
Et vous avez eu des indices pour trouver ces mosaïques? Comment vous avez pu savoir qu'à un moment donné, elles étaient là?
Alors, c'est pas nous qui les avons redécouvertes, hein. Elles étaient redécouvertes quand même depuis la fin du 19e, non. En revanche, ce qui a été... on n'a pas fait de découverte majeure par rapport à... Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Ganagobie, qui est quand même un chef-d'œuvre de l'art roman et qui est extrêmement connu et étudié. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a récupéré aux archives départementales le fonds des archives de la société qui a restauré Ganagobie, enfin le fonds qui concerne évidemment leur restauration de Ganagobie. Donc on a pu mieux comprendre, de manière très technique, hein, le procédé de restauration qui était très très innovant puisqu'on a décollé, enfin on a enlevé en fait la mosaïque pour la restaurer à Périgueux et la remettre en place. D'ailleurs, j'y pense maintenant, l'actuel directeur de la société qui s'appelle la SOCRA viendra faire une conférence sur le site de Ganagobie la veille de notre inauguration. Donc lui, il viendra parler le 6 juillet à Ganagobie de son travail, de savoir-faire de mosaïste, qu'est-ce que ça signifie de restaurer une mosaïque. Et peut-être qu'on fera une seconde conférence aux archives départementales cette fois, le lendemain de l'inauguration, donc sur le temps du week-end cette fois. Voilà, donc du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire.
Juste pour vous peut-être remettre sur les rails,
oui.
Au niveau des reprographies,
oui.
Est-ce qu'il y a des droits à payer? Comment ça se passe quand vous mettez ça pour vous?
Ah, mais quand on utilise des clichés dans une illustration, on demande systématiquement à la personne qui a produit les clichés si on a le droit de l'utiliser. Donc la SOCRA, il n'y a eu aucun problème puisqu'ils nous avaient donné leur fonds. Nous, on a fait des photos nous-mêmes, puisqu'on peut aller facilement sur le site. Les moines avaient aussi des photographies qu'ils nous ont données. Et pour toutes les photos anciennes, on a fait une demande à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Puisque vous savez, à la fin du 19e, quand justement il y a eu toute cette, j'allais dire, sensibilisation, c'est plus que ça, parce qu'en fait, dès la Révolution, on a pris conscience qu'il y avait un patrimoine à sauvegarder. C'est-à-dire que les destructions de la Révolution ont fait une espèce de déclic chez certains. Et le terme de monument historique apparaît très tôt après la Révolution. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il faut peut-être arrêter certaines destructions et veiller à protéger des choses qui font partie du patrimoine national. Et ça, c'est très novateur, c'est très français et c'est une exception française dont il faut se glorifier parce que c'est très intéressant. Donc, il y a eu les premières protections des monuments historiques ont démarré dans les années. Ça a démarré très tôt, dans les années 1830. Après, il y a eu ce qu'on appelait des listes vers 1860. Et après, la grande loi des monuments historiques, c'est 1913. Et donc, vous voyez, entre 1860 et 1913, il y a une vraie prise de conscience. Et il y a une administration qui se crée, l'administration des Beaux-Arts, avec un service des monuments historiques qui lance des campagnes photographiques systématiques. Et ça, c'est extraordinaire. On a donc des clichés de tous les grands édifices, essentiellement religieux, mais pas seulement, de la France, qui sont conservés à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Donc nous, pour notre publication, on a demandé à la médiathèque, qui est un service du ministère de la Culture, si on pouvait avoir des copies numériques et si on avait le droit de s'en servir pour une publication et une exposition. Et ils nous ont donné les droits sans problème, surtout que on n'est pas du tout dans une démarche lucrative. Hein. Après, quelqu'un qui voudrait éditer une photo, par exemple, de Mieusement, qui est un des photographes qui a fait des photos pour le compte des monuments historiques et qui veut en faire des cartes postales, je pense qu'il paierait des droits, ce qui est bien normal.
Et c'est légitime.
Voilà.
Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont prises comme ça. On pense que tout est gratuit, mais derrière, non, il y a toujours
quelque
chose.
Non, mais ça, c'est le problème d'Internet aussi. aussi qui et c'est pas fini hein, les débats. Nous on est en plein dans ces débats là aussi, puisque maintenant nous avons une loi qui s'appelle la loi pour la République numérique, qui en fait oblige les administrations à mettre en ligne leurs données publiques, et donc ce qui est très bien d'un point de vue j'allais dire le concept est très intéressant. Après, dans la pratique, c'est compliqué. Mais là, c'est sûr qu'on va vers les notions d'open data, de libre accès, de téléchargement gratuit. Donc là, il faut que tout que l'administration, notamment, mais pas seulement, se mette en ordre de marche. Et puis que les gens apprennent à connaître. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les gens pourront prendre beaucoup d'informations sur Internet. Mais c'est eux qui prennent la responsabilité de l'usage qu'ils en font. Donc il faut que les gens comprennent bien que on a le droit de se servir, mais l'usage que vous en faites après vous incombe, et que vous ne pouvez pas reprocher au service qui a mis en ligne quelque chose et que vous avez mal utilisé, ou à des fins qui n'étaient pas celles pour lesquelles c'était destiné de prime abord. Vous ne pourrez pas reprocher au service d'avoir mis en ligne et vous dédouaner. C'est vraiment celui qui utilise la donnée qui est responsable. Donc là, je crois que c'est aussi, je pense que les gens n'ont pas encore tout à fait compris c'est un vrai risque juridique, hein, parce qu'aujourd'hui, le contentieux est rapide.
Il y aura peut-être une charte.
Oui, bah, il y a déjà des chartes hein, pour la protection de la donnée des données personnelles, etc. Bon, après, le problème, c'est qu'on peut toujours multiplier des textes. Donc, je crois qu'il y a surtout une éducation à faire des gens par rapport à l'usage de ce qu'on trouve sur Internet. Alors, du coup, on a un peu dévié de Ganagobi, on est passé à Internet, mais bon, c'est intéressant.
Donc, vous avez quelques documents sous les yeux.
Oui.
Vous avez parlé de...
Alors, la symbolique, tout à fait. Alors, nous aurons aussi dans le catalogue une présentation, en fait, de... Monsieur Labadie a essayé de rechercher tous les clichés sur Ganagobi en recréant une chronologie. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit... vous savez, Ganagobi était en ruine hein, quand même à la fin du 19e. Ce qu'on n'imagine peut-être pas quand on y va aujourd'hui, y compris l'Église. Hein. L'Église était à ciel ouvert. Enfin, je veux dire, il n'y avait plus rien. Hein. Donc les clichés permettent un peu de reconstituer l'histoire du bâtiment. Et puis surtout, a priori, il a pointé un cliché qui serait vraiment très, très ancien. 1860, 1880. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc il a reconstitué un petit peu une chronologie de la représentation photographique de Ganagobi. Marie-Christine Braillard, elle a travaillé sur l'église paroissiale avec le changement de statut, puisqu'à un moment donné elle a été église paroissiale et puis elle a été privatisée, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Enfin, maintenant, c'est l'église du monastère. Et Nicole Danoville, elle a travaillé sur le cimetière. Hein. Pareil, le cimetière, à un moment donné, a été paroissial. Puis, essayer de comprendre qui était enterré là. Parce qu'aujourd'hui, on remarque essentiellement les tombes des moines. Mais il y a aussi quelques laïcs qui sont enterrés du temps où l'église et le cimetière étaient paroissiaux.
Et pour retrouver le nom des tombes, il y a des descendants qui se manifestent ?
Non, alors en fait, dans les communes, puisque quand les laïcs étaient enterrés là, c'est du temps où le cimetière était communal. Donc dans les mairies, on a les dossiers des concessions des cimetières. Et aux archives aussi, on a quelques dossiers concernant les concessions. Voilà, donc on retrouve comme ça, même s'il n'y a plus la plaque, c'est toujours possible, en fait, si les archives sont toujours là, de savoir qui, à un moment donné, a été enterré. Est-ce que ce sont des concessions perpétuelles voilà. Donc il y a peu de familles hein, qui sont enterrées, mais il y a quand même... Et notamment, il y a un vrai monument. Hein. Je crois que c'est l'unique concession perpétuelle. Alors, c'est pas moi qui ai écrit le texte. Donc là, si vous permettez, je retourne vers le document de Madame Danoville. Hein, parce que justement, elle a fait un petit encart spécifique là-dessus. Voilà, sur le tombeau de la famille Brun. Voilà. Donc, ce serait la seule concession perpétuelle. En fait, c'était le maire de Ganagobi, Jean-Charles Brun. Voilà. Et en 1864, pour bénéficier d'une concession perpétuelle, il réalise donc des travaux. Parce que du coup, on lui a demandé, pour avoir le droit de faire c'est pas un monument, mais c'est une plaque qui est un petit peu plus imposante que les simples croix qu'on voit d'habitude. Il a dû faire des travaux de terrassement, en fait. Il a donc réalisé les travaux à ses frais pour avoir le droit d'installer le monument, enfin le tombeau de sa famille. Voilà.
Et pour les... On a peut-être là pour le... Pour ce qui se passe à Ganagobie, il y a plusieurs expositions qui vont avoir lieu bientôt.
Oui, alors déjà, il faut quand même annoncer que outre le catalogue, il y aura l'exposition évidemment qui va être présentée cet été, qui a priori, bon là ça reste encore un petit peu à déterminer, partira ensuite au monastère. Donc les gens qui iront voir le monastère, visiter le monastère, pourront visiter l'expo. En même temps que l'exposition Ganagobie, nous accueillons une artiste allemande qui vient tous les étés dans la région et qui, alors c'est une artiste artisan, voilà, on va dire ça comme ça. C'est une femme qui a été formée à la fabrication du papier par un conservatoire qui est installé dans le Roussillon. Et qui, depuis donc plus de 10 ans maintenant, fabrique du papier à base de tissus, de toutes sortes de matières végétales. Elle fait même un papier à base de pelure d'ail. Vraiment, elle est très inventive. Et alors, elle fait du papier vraiment utilitaire, j'allais dire, hein, du papier sur lequel on écrit. Et avec ses créations, là, plus peut-être à base de végétaux, mais pas seulement, elle réalise des tableaux papier, on va dire ça comme ça. Donc, où elle montre, en fait, l'état entre la plante séchée et la réalisation du papier.
Elle fait un peu de pédagogie.
Oui, alors elle va exactement, elle explique comment on fabrique le papier. Elle sera présente tous les mercredis donc de la période de l'exposition. Donc, elle expose de mémoire, parce que je n'ai pas ramené le calendrier précis, mais de mémoire, elle expose tout le mois de juillet et elle décrochera, je pense, courant août, tous les mercredis, donc cette période-là. Elle sera sur place aux archives pour parler de sa technique et de l'aspect vraiment artisanal de son travail.
Et est-ce qu'elle propose aux différentes écoles, parce que c'est intéressant pour les tout-petits, oui. Parce que le papier, c'est une matière, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient.
Tout à fait.
Il y a une démarche aussi comme ça qui se fait.
Alors le problème, c'est qu'elle, en fait, elle réside en Allemagne hein, à l'année. Elle n'est là que l'été, en fait. Hein. Si j'ai bien compris, elle garde une maison pendant l'été.
D'accord.
De connaissance à elle. Donc voilà, le problème, c'est que l'été, hormis dans les centres aérés, il n'y a pas de possibilité d'intervenir en milieu scolaire. Donc je ne sais pas du tout si elle oriente son travail vers ça, mais c'est vrai que c'est en plus, je pense qu'on peut faire du papier très artisanal, mais elle explique, par exemple, dans le dépliant qu'on a préparé pour l'exposition, elle explique un peu le procédé. Hein. Et elle explique qu'il faut avoir vraiment une espèce de presse très puissante pour arriver à faire quelque chose qui soit pas de l'ordre du en hyper relief et sur lequel vous pouvez rien faire. Donc ça demande quand même. On peut faire du papier artisanal avec pas grand chose, mais ça demande quand même un peu d'équipement qui n'est pas forcément accessible à tous. Oui, je voulais continuer dans nos actualités et évoquer la mise en ligne, puisqu'on a parlé d'Internet et des mises en ligne. À l'occasion des commémorations du 8 mai, nous avons mis en ligne un fonds photographique que nous avons déjà exploité dans le cadre d'une publication. Mais là, l'intérêt, c'est qu'on propose l'accès direct aux photos à partir de notre site Internet, qui est, je le rappelle, Archive 04, tout simplement. Et donc c'est le fonds De Lobo. Alors De Lobo, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un résistant qui est décédé il y a peu d'ailleurs. Donc c'est aussi une façon de lui rendre un hommage que de mettre en ligne ces images aujourd'hui. Et ce qui est passionnant, c'est que évidemment ça n'est pas le seul résistant, mais c'était un résistant avec un appareil photo, ce qui est quand même plus rare, hein, surtout quand on sait le danger qu'il pouvait. Alors évidemment, il n'a pas développé ses photos sur le moment, il les a développées bien après.
Mais hein. Pour trouver le matériel, pour faire des photos déjà.
Ben en fait, en réalité, ça représente pas tant de pellicules que ça, hein, mais voilà, il avait.
Il fallait se fournir.
il fallait se fournir malgré tout. Et puis bon, c'est vrai que c'était un risque, hein. Mais alors l'intérêt, c'est qu'on a, on a comme ça une chronologie de son passage dans la résistance. Alors d'abord, on a des photos qui concernent les chantiers de la jeunesse française dans le Jura et la Saône-et-Loire, où en fait c'est là où il s'est un peu formé, j'allais dire. Et puis à partir de février 1944, il est dans la résistance basalpine, et notamment il fait partie des maquis, le fameux maquis Fort-de-France, et puis après Seine-les-Alpes jusqu'au combat de la libération. Et on a en plus des clichés qui ont été, donc qui font partie du même fond, des clichés qui a priori ont été pris sur des Allemands qui étaient prisonniers. Donc c'est des clichés cette fois-ci côté allemand, et qui révèlent la répression dont furent victimes les maquisards basalpins.
Et vous avez d'ailleurs édité un livre.
Tout à fait.
Avec qui est sa
tout,
femme.
Voilà, qui est tout. Oui, parce que on dit Fondo Lobo, mais en fait c'était un couple. Hein, ils se sont mariés après la guerre, de mémoire. Mais effectivement, la photo d'ailleurs est très belle. On les voit tous les deux avec cette montagne si caractéristique des Basalpes, très minérale, très claire. Et il y a ces deux silhouettes qui se découpent. Alors évidemment, c'est des photos qu'il a prises, mais c'est aussi des photos qu'on a pris avec son appareil, puisque sur certains clichés, il est dessus, donc forcément, c'est pas lui qui a appuyé sur le déclencheur. Mais voilà, donc c'est tellement rare d'avoir des images, en plus d'avoir pas seulement une image unique, mais vraiment, voilà, c'est plusieurs pellicules. C'est des photos qu'il a fait développer, et puis qu'il a un peu oublié, pas oublié, mais vous savez, comme beaucoup de gens qui ont fait la guerre, c'était malgré tout des souvenirs très douloureux, donc ils n'étaient pas plongés dedans en permanence. Voilà, à un moment donné, c'est sorti. Comme souvent d'ailleurs, c'est avec l'âge qui avance, une espèce de devoir de mémoire comme ça qui s'impose. Et donc voilà, la rencontre s'est faite autour de ces clichés. En réalité, c'est des clichés, certains étaient déjà connus, hein, et notamment avait été utilisé par l'archiviste de la mairie de Digne. Et quand M. Labadie et M. Boucard, qui est l'archiviste chez nous, qui travaille beaucoup sur cette période-là et qui travaille avec nous sur les expositions, a cherché à savoir d'où venait cette photo, c'est comme ça qu'on est entré en contact avec Paul Delobo, et puis que, de fil en aiguille, nous avons pu numériser ces photos et puis faire vraiment un livre de témoignages à partir de ces photos. En fait, c'est des commentaires de photos. Voilà, donc aujourd'hui, pour vraiment, j'allais dire, boucler ce travail, les internautes, à partir de notre site, ont l'accès à l'ensemble des clichés qui ont été numérisés et qui sont légendés, avec une petite possibilité de faire un petit moteur de recherche. Donc c'est vraiment important pour nous d'arriver à mettre en ligne ces photographies au-delà de la publication. Voilà. Et dans le même temps, on a une deuxième actualité, puisqu'on, vous savez qu'on prépare la fin des commémorations de la Grande Guerre cette fois, qu'on s'achemine vers l'armistice. Et nous avons déjà préparé en fait le catalogue et l'exposition qui seront inaugurées à l'automne. Hein. Et nous avons déjà mis en ligne, dans une rubrique qui s'appelle « D'une guerre à l'autre », le catalogue 17-18, qui est donc déjà en accès, si ça intéresse les gens, pour faire le lien entre ces deux guerres, parce que malheureusement, la première a préparé la seconde.
Est-ce que dans la Première Guerre mondiale, vous mettez comme quoi les Américains étaient venus s'impliquer dans la, avec nous, entre guillemets ?
Dans la Première Guerre mondiale, vous parlez ? Oui, alors là, j'avoue que je n'ai pas le catalogue complètement en tête, mais après, on a, bien sûr, c'est quand même en partie ce qui a fait basculer l'issue de la guerre, pas seulement, mais en partie. Après, c'est vraiment une exposition qui se focalise sur les morts. Parce que cette victoire est une victoire très amère. C'est une guerre qui a été sanglante des deux côtés. Et le pays s'est ensuite couvert de monuments aux morts, a marqué durablement le paysage. On le voit toujours. On ne peut pas entrer dans une église ou un village sans tomber nez à nez sur un monument aux morts. Donc notre angle a été plus que d'expliquer, évidemment, on évoque les ressorts de l'issue de la guerre, mais a été vraiment de montrer cette hécatombe, hein, cette hécatombe et comment ça s'est traduit dans les familles basalpines, dans les paysages des villages basalpins. Voilà. Parce qu'on est, on cherche toujours, si vous laissez, la petite histoire dans la grande histoire. Nous sommes les archives départementales, donc on a quand même vocation à parler de l'histoire du département. Donc il y a toujours un contexte général, mais on essaye vraiment d'avoir un angle local. Et d'ailleurs, on continue à présenter le destin de certains combattants basalpins. On l'a fait tout au long des 4 années, évidemment, y compris la dernière.
Et les monuments morts, c'est suite à la Première Guerre mondiale, c'est pas antérieur, c'est juste là, ça, il n'y en avait pas avant.
Il y en a eu un petit peu, mais de manière systématique comme ça, c'est vraiment le grand début de la commémoration des morts pour la patrie. Hein. Je suis allée dernièrement dans une commune dont j'ai inspecté les archives. Il y a même eu, ça c'est très touchant, parce que les monuments aux morts, c'est des souscriptions, c'est toute une communauté qui s'organise. Là, c'était l'instituteur du village, qui a fait un dessin qui est vraiment très beau et qui rend hommage aux instituteurs morts pour la patrie pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il liste tous les instituteurs basalpins. Alors, c'est un petit tableau. La commune nous l'a prêté, on l'a fait restaurer, on le présentera a priori dans l'exposition. Les gens pourront le voir pour de vrai, j'allais dire. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est à tous les niveaux, que ce soit institutionnel ou simplement dans les milieux professionnels, évidemment familiaux, ça a été une déflagration. Donc voilà, on voulait vraiment insister sur ce côté-là.
Et une prochaine exposition, il n'y a pas encore de lieu bien précis également ?
Alors, les expositions sur la guerre, sur papier, ça a lieu aux archives départementales. L'exposition sur Ganagobi, normalement, aura lieu, comme toutes les années précédentes, à la cathédrale. Voilà. Après, on a une petite inconnue, j'allais dire, mais qui est en train de se lever, eu égard à d'éventuels travaux qui auraient lieu à la cathédrale. Nous l'espérons pas cet été, et donc du coup on pourrait exposer l'exposition dans le lieu habituel, dans la chapelle, en entrant à droite dans l'église, enfin dans la cathédrale, pardon.
Vous auriez un lieu de repli éventuellement ?
Les archives.
Les archives.
Les archives. Ouais, bien sûr. Ouais.
C'est là où tout se centralise quelque part.
Tout
aussi.
À fait. Tout à fait.
Il y a les archives en bas, les archives au-dessus, puis les archives dans ce grand hall, voilà. Où il y a vraiment beaucoup de choses à voir.
Oui, bah, c'est l'intérêt de ce bâtiment d'archives tel qu'il a été conçu, c'est que justement, on a, contrairement à d'autres dépôts d'archives départementales en France, on a vraiment de quoi présenter au public des expositions régulières. Je pense qu'ils rencontrent quand même un réel succès, qu'ils sont assez variés pour toucher un public différent. Et on a les lieux pour, hein, donc, et on s'est équipé aussi en conséquence. On a beaucoup de meubles d'exposition, donc on peut vraiment mettre en valeur à la fois les archives qu'on a chez nous, mais aussi aller chercher ailleurs. Bah, là, par exemple, comme ce tableau des instituteurs morts pour la France et pouvoir les présenter au public. Donc ça c'est bien.
Vous avez même une petite salle de conférence.
Tout à fait, conférence et qu'on utilise très régulièrement et qui sert aussi pour les ateliers pédagogiques, ce qui me permet de faire une habile transition sur une autre actualité dont j'aimerais parler aux auditeurs. Il y a une nouvelle. La France aime bien les fêtes de ceci, les journées de cela, mais pas seulement le monde entier s'y met. Donc il y a une journée internationale des archives le 9 juin à laquelle nous nous associons. Nous avons choisi de travailler pour cette première fois pour nous avec des scolaires. Et donc on a le service. Ça a été vraiment un travail collaboratif à travailler sur un jeu de pistes. Pour des scolaires en rapport avec ce que sont les archives et ce que sont les métiers des archives. Donc la salle de lecture sera fermée ce jour-là au public. Le service restera ouvert, hein, mais étant donné qu'il va y avoir quand même beaucoup d'enfants qui vont notamment être installés en salle de lecture, on a préféré dissuader les éventuels chercheurs de venir se rendre ce jour-là. Bon, après, s'il y en a qui ont une grande capacité de concentration, peut-être qu'ils viendront quand même, mais bon, a priori, on fermera la salle au public. Et donc, les enfants vont pouvoir essayer de comprendre de manière très ludique à ce que sont d'abord des archives, parce que ça reste assez flou quand même dans la tête de beaucoup de gens, à quoi ça sert de conserver des archives, et découvrir les métiers des archives, parce qu'on a toujours l'impression qu'un archiviste est simplement quelqu'un qui met dans des boîtes et qui va chercher des boîtes pour les donner aux gens, mais c'est bien plus que ça. On a quelqu'un chez nous qui restaure les archives, nous avons des gens qui nettoient les archives, parce qu'évidemment on ne les met pas en boîte lorsqu'elles sont sales, et elles sont souvent très sales. Nous avons aussi des gens qui savent chercher les archives dans les magasins. Je rappelle qu'on a plus de 10 km d'archives, donc c'est un peu plus compliqué que de retrouver un livre de poche dans sa bibliothèque personnelle, donc qui connaît bien ce qu'on appelle les magasins et qui arrive à circuler. Nous avons notre maquettiste et photographe qui réalise toutes nos publications. Enfin voilà, des métiers très divers qui sont pas forcément évidents pour le public et encore moins les enfants.
Tout à l'heure, vous parliez des instituteurs. Est-ce que les instituteurs vous donnent un petit peu la main aussi en amont de présenter cette journée qui va avoir lieu au mois de juin, mais d'expliquer, là vous parlez de ce que sont les archives, mais de les resituer à travers le temps pour eux ?
Oui, alors là, dans le cadre de la Journée internationale des archives, avec les enfants qu'on va recevoir, bien sûr que ça va faire partie de la présentation qui sera faite aux enfants. Après, à l'année, nous avons un service éducatif dont le rôle, justement, est... Alors, on produit donc tous les ans, d'ailleurs, ça va bientôt sortir, le programme, non seulement notre programme culturel, donc les expositions, les conférences, les lectures d'archives, les publications, mais aussi un programme spécifique service éducatif, où on propose des ateliers à l'attention des scolaires, que ce soit depuis la maternelle, même si on n'en a pas tant que ça, jusqu'au niveau universitaire. En fait, le public qu'on arrive le plus facilement à toucher, ça reste encore les primaires et les collégiens. Et oui, les enseignants sont toujours très intéressés, surtout qu'évidemment, on choisit des sujets qui sont exploitables par rapport au programme qu'ils ont à travailler avec les enfants. Donc, on est souvent sollicités. Et oui, les enfants sont en général très intéressés.
Et au fil des ans, les enfants, vous les trouvez plus assidus ou un petit peu plus perturbé par rapport à tous les moyens de communication qu'ils peuvent avoir, d'occulter tout ceci ?
Eh bien, écoutez, moi, je ne suis pas enseignante, donc je n'aurais pas forcément la même vision qu'un enseignant, mais pour avoir animé quelques ateliers moi-même, alors, il y a toujours les deux ou trois qui, de toute façon, je pense que vous pouvez parler de n'importe quel sujet, ils sont dissipés, ils ont du mal à se concentrer, mais la plupart du temps, ils sont très intéressés, ils sont assez fascinés par la culture de l'écrit, contrairement à ce qu'on peut penser, surtout que nous, on a quand même ce qu'on appelle des registres qui sont très volumineux, avec des centaines et des centaines de pages écrites à la main, des très grands volumes, ça les fascine littéralement, hein. Voilà. Après, évidemment, ça reste des enfants. C'est sûr que si vous leur dites qu'il y a des choses un peu étonnantes ou mystérieuses dans ces ouvrages, c'est tout de suite ça titille leur intérêt. La dernière fois, j'ai eu le malheur de leur parler, de leur dire qu'on avait le dossier de l'affaire Dominici aux archives. Toute la visite, ils ont insisté pour que je sorte la boîte, ce que évidemment je n'ai pas pu faire parce que c'est un dossier qui n'est pas consultable en fait encore, et encore moins pour des mineurs. Donc voilà, donc bon, mais ça c'est normal, hein, c'est des enfants malgré tout. Et puis vous savez, même les adultes, à mon avis, certains auraient la même réaction. Donc,
ils pensent que dans vos archives et dans ces grands grimoires tels qu'ils peuvent les imaginer, il peut y avoir des contes, des choses fabuleuses.
Voilà, des choses de l'ordre du roman policier. Ça les... Et alors surtout aussi, moi, ce qui m'a étonnée par rapport à la réaction des enfants, c'est qu'en fait, quand je leur expliquais ce que c'était qu'une archive publique, parce qu'en fait, c'est essentiellement ce qu'on a chez nous, ce sont des archives qui, je le rappelle, sont produites ou reçues par des institutions publiques. On a un petit peu d'archives privées, mais fort peu en comparaison. Et donc, il y a plusieurs enfants qui m'ont dit « Mais alors, vous avez des dossiers sur nous ?» Voilà, c'est ça, ça les... ça les interpellait, pour utiliser un mot courant. Voilà, alors j'ai eu beau leur expliquer que oui, il y avait certainement des choses qui concernaient leur famille, mais que tout ça était noyé dans une masse de documents administratifs et qu'on n'avait pas un dossier individuel qui relatait toute la vie d'une famille. Voilà, et que ça, ils pouvaient le faire, mais c'était à eux de rédiger cette histoire à partir de tas de documents administratifs différents. Et ça, ils avaient du mal à le comprendre. Ce qui montre bien, d'ailleurs, que si déjà on a du mal à comprendre cette notion justement de traçabilité dans les archives écrites, que les gens aient du mal aussi à l'imaginer pour ce qui relève des données numériques. Alors là, on sait que pour le coup, il suffit de taper son nom dans un moteur de recherche. Il y a très peu de chances pour qu'il n'y ait pas une info qui vous concerne, qui sorte sans que vous l'ayez demandé ni même voulu. Donc c'était intéressant, ça.
Prochain rendez-vous Histoire d'Archives Lourdes, ce sera le 15 juin.
Tout à fait.
Donc le troisième jeudi du mois. Entre-temps, donc, il y aura pas mal de choses à voir aux archives départementales, à Ganagobi.
Alors, c'est en juillet, hein, l'inauguration, hein, j'aurais dû préciser. En revanche, ce que je peux déjà annoncer, c'est qu'il y aura, pour la fête de la musique, nous allons faire une lecture musicale à partir d'un texte de Ramuz, mis en musique par Stravinsky. Et c'est un ensemble de musiciens et une conteuse qui vont venir nous faire ce spectacle. Ça sera, j'espère que je ne me trompe pas, lundi 19 juin. Aux archives départementales à 18h. Mais bon, on pourra l'annoncer à nouveau le 15 juin. Ce sera encore dans les temps.
Vous serez toujours à même. Merci.
Merci Jean-Marc, à bientôt.